Bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Ce soir, donc, nous poursuivons le cycle organisé par l'ISM sur Afrique, sociétés en mouvement, et nous avons le plaisir d'accueillir Madame Odile Guer, qui est professeure d'histoire contemporaine de l'Afrique contemporaine à l'Université Paris Diderot depuis 2001, et qui est rattachée au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, le CESMA. Donc elle enseigne évidemment en tant que professeure en licence master et dirige de nombreuses thèses de doctorat. Madame Guerg a travaillé principalement sur deux villes qui sont Conakry et Freetown, sur des questions d'urbanisme, d'architecture et d'équipement urbain, et sur, de manière plus générale, sur l'histoire économique, culturelle et sociale en contexte urbain. Aujourd'hui, elle consacre son travail de recherche essentiellement sur le cinéma comme pratique sociale en situation coloniale et postcoloniale, et aussi sur les nouveaux médias, la presse et la radio, et sur les idées que ces nouveaux médias permettent de transmettre. Alors, si son centre de géographie et sa période historique concernent essentiellement la Guinée et la Sierra Leone à l'époque coloniale, elle élargit ses propos à la fois et chronologiquement et géographiquement à l'ensemble de l'Afrique occidentale de manière comparative et à l'époque postcoloniale après les indépendances. Alors, Madame Guerg a le don des titres percutants pour ses publications. Donc, un de ses derniers ouvrages, Fantomas sous les tropiques, Aller au cinéma en Afrique coloniale, qui est publié aux éditions Vendémiaire en 2015, va paraître en anglais aux éditions Hearst à Londres. Ou bien, autre titre, Les nègres, ils t'emmerdent, rire, applaudissements et protestations, les formes de visibilité de publics africains en Afrique coloniale. C'est un article qui se trouve dans l'ouvrage Regarder des films en Afrique, publié aux presses universitaires du Septentrion en 2017. Les films arabes, une menace pour l'Empire, la politique des films arabes à la veille des indépendances en Afrique occidentale française, dans la revue Outre-mer, revue d'histoire de 2013. Enfin, entre autres, hein, c'est un extrait des différents titres de ces articles, entre infantilisation et répression coloniale, censure cinématographique en AOF, Grands enfants et protection de la jeunesse, cahier d'études africaines en 2012. Je vous remercie d'être là et je vous laisse la parole et vous retrouve après pour les questions.
Merci. Alors, je précise tout de suite que le titre Les nègres, ils t'emmerdent, ce n'est pas de moi, bien sûr, je n'oserais pas. C'est une citation de Birago Diop, dans La Plume raboutée, lorsqu'il raconte une séance de cinéma à la fin des années 30 à Bamako. Voilà, donc merci d'être venu. Merci à l'ISM de m'avoir invité, de me permettre donc de parler de ce sujet sur lequel je travaille depuis une dizaine d'années, parallèlement bien sûr à d'autres obligations, et qui a donné comme fruit donc un ouvrage qui se veut une synthèse, à la fois à partir de recherches propres et de synthèses aussi d'ouvrages déjà rédigés par d'autres et que j'intègre à mon approche. Alors, c'est une approche générale que je vais vous proposer également ce soir. Et dans le titre de mon intervention de ce soir, c'est le sous-titre qui, comme souvent, est important, c'est-à-dire la nouvelle donne des années 50, cinéma, culture et politique, le titre des Afriques dans la colonisation, et juste là pour donner le contexte périodique, la périodisation, qui s'imposait d'ailleurs un peu de soi, car le cinéma, qui est ici choisi par moi comme mon entrée pour cette conférence, est une technologie nouvelle, comme vous le savez, qui arrive dans les bagages des colonisateurs. Donc il y a concomitance entre la période coloniale et la diffusion du cinéma, qui se diffuse dès la fin du XIXe siècle. On a des exemples en 1896 rapidement, mais qui se diffuse surtout dans l'entre-deux-guerres et de manière plus nette à partir des années 30. Je ne vais toutefois pas ici évoquer tous les aspects de la diffusion du cinéma. Effectivement, comme vous l'avez bien dit, je m'intéresse non pas au film, mais au cinéma comme pratique sociale, tout en étant obligée de bien m'interroger aussi sur ce que voient les gens. Donc je ne vais pas évoquer ici les conditions de la diffusion du cinéma, la typologie des premières salles, la construction d'un public éphémère ou d'un public de cinéphiles, sujet très vaste que j'ai traité dans mon livre Fantomas. Je ne vais pas non plus présenter de manière précise les sources qui m'ont permis de construire cette histoire, mais vous verrez progressivement le type de documentation qui permet de le faire. Je vais parler lors de cette séance d'une décennie particulière, celle des années 50, décennie qui, comme vous le savez, est une décennie d'effervescence, de circulation des idées, de prise de conscience et d'apprentissage politique, de lutte pour l'indépendance, grâce à une combinaison, variable selon les colonies bien sûr, entre des changements législatifs et un militantisme à la base, militantisme au sens très large, et c'est dans ce cadre que s'insère la thématique du cinéma. Ceci, cette effervescence générale des sociétés, va donner une marge de manœuvre plus grande et une visibilité accrue aux spectateurs, mais va aussi induire, et il y a un jeu dialectique, des changements de politique de la part des colonisateurs. Ainsi, la culture, qui n'était pas au centre de la politique coloniale, de manière générale, la culture est laissée au privé, et le cinéma est d'ailleurs une question d'entrepreneurs privés et non pas d'administration coloniale, avec bien sûr l'exception des écoles. Et là, on a tout un monde qui se crée, et dans les années 50, mais j'en parlerai pas puisque je parlerai de cinéma commercial, du cinéma dans les centres culturels ou les maisons de jeunes qui se développent et qui sont également une tribune importante. On pourrait citer aussi, mais surtout au Congo belge, la participation des missionnaires. Donc la culture qui n'est pas au centre de la politique coloniale va devenir au cours des années 50 un objet important, un objet de contrôle, un objet d'orientation, et c'est ce que je verrai lors de cette séance, devient un enjeu. Alors j'ai pris pour ouvrir cette thématique un exemple qui n'est pas un exemple dans le cinéma mais dans le théâtre, mais qui vous montre cette effervescence nouvelle, donc la culture comme nouvel enjeu. Vous avez ici la présentation d'une pièce de théâtre dont le scénario doit être soumis à une forme de contrôle, une forme de censure. Donc cette pièce de théâtre s'appelle « Temps perdu » en trois tableaux. La colonisation se justifie-t-elle ? Que pouvons-nous en attendre ? La révolution africaine, pas la peine de faire trop de petits dessins pour comprendre que l'objectif de cette pièce de théâtre était un questionnement de la présence coloniale et éventuellement, même de manière évidente, une réflexion vers une ouverture pour des changements. Cette pièce de théâtre qui avait été proposée à une société de théâtre à Saint-Louis au Sénégal a été interdite. Et l'administration fait une enquête et pense qu'elle est liée au RDA, le Rassemblement démocratique africain, et que c'est un instituteur qui l'a écrit. Les instituteurs ayant d'ailleurs été initiés au théâtre dans l'école normale d'instituteurs à William Ponty. Donc c'est dans ce contexte que, dans ce cadre, que de nouvelles approches vont concerner le cinéma, pas tant au niveau législatif, on le verra. La loi sur la censure, par exemple, reste la même, mais au niveau de la pratique. Donc, dans l'effervescence des années 50, le cinéma, dans toutes ses dimensions, devient un enjeu. Le cinéma est un lieu où la prise de parole peut se faire plus aisément et de manière plus subversive grâce à l'obscurité, qui crée une certaine impunité. C'est un élément classique de la séance du cinéma. Le cinéma est aussi un lieu où va se faire un dialogue par écran interposé. On interpelle le colonisateur, le blanc, à la faveur d'échanges qui passent à l'écran. Et finalement, on le verra à la fin, le cinéma est également un lieu de revendication d'autres images de soi, de représentation de soi, et ça sera une évolution vers la fin des années 50. De manière symptomatique, et sans vous étonner, je suppose, le cinéma en vient à définir la citadinité, hein, une vraie ville se doit d'avoir un cinéma, et à définir une forme de modernité. On participe d'un ensemble culturel nouveau, qu'on ne disait pas encore mondialisé, mais qui circulait très largement par le biais cinéma. Alors, j'aimerais justement commencer par poser le cadre dans les années 50, c'est-à-dire quels sont les changements dans les années 50 qui vont expliquer que le changement d'échelle, le changement de public vont renforcer l'enjeu représenté par le cinéma. Donc, état des lieux au début des années 50. Au début des années 50, le cinéma est bien implanté comme loisir urbain. Absolument majeur, c'est le loisir urbain le plus important, le loisir urbain payant, il faut le préciser, puisqu'il va se différencier ainsi de veillées, d'organisations de danse ou de séances de percussion qui, elles, se font spontanément. C'est donc le loisir urbain majeur, rassemblant souvent hommes et femmes, donc c'est un lieu mixte, même si les femmes sont moins nombreuses après le mariage, c'est-à-dire souvent très tôt. Donc là, il y a une thématique de genre qui est intéressante, mais la mixité du lieu est en elle-même intéressante. C'est un lieu qui rassemble jeunes et moins jeunes, avec là aussi une dimension de genre, puisque les hommes continuent à aller au cinéma très tard dans leur vie, ce que ne font pas forcément les femmes, mais c'est aussi un lieu donc, où se rassemblent des générations différentes, une occasion différente, et c'est aussi un lieu qui peut être fréquenté par des Africains et des Européens, c'est-à-dire colonisateurs et colonisés, parce que effectivement, ou ne serait-ce que parce que dans beaucoup de villes, vous n'avez qu'un seul cinéma. Alors, ce qu'on verra, et on pourra en discuter pour la mise en place de ce phénomène, c'est un partage à l'intérieur de l'espace du cinéma, c'est des enjeux dont je vais parler à l'intérieur de la salle. Mais la salle en elle-même est un lieu mixte. Alors, je précise quand même que je travaille ici essentiellement sur l'Afrique occidentale centrale en évoquant un peu l'Afrique orientale, donc c'est déjà assez vaste, mais je ne parle pas des colonies où des formes de ségrégation légale ont été appliquées dans les cinémas. Les cinémas dont je parle sont des cinémas commerciaux où n'importe qui peut rentrer en payant le prix de la place, avec bien sûr une hiérarchie des prix des places, mais il n'y a pas de discrimination à l'entrée, ce qu'on trouverait par exemple en Afrique du Sud, ce qui change totalement la thématique. Hein, le dialogue par écran interposé ne peut pas se faire de la même manière. Donc la salle de cinéma s'offre comme un lieu à part, permettant de regrouper des gens d'origine régionale et sociale ou nationale diverses. C'est aussi un élément important, c'est-à-dire un lieu cosmopolite, un lieu de brassage, et ceci va aussi expliquer qu'il devienne un enjeu politique. Hein. Parmi les sources que j'ai utilisées, il y a bien sûr les enquêtes orales, et les enquêtés évoquent souvent ce regard tourner avec d'autres, avec des centaines d'autres, parce que les salles de cinéma étaient souvent très vastes, 800 à 1000 personnes pour les plus grandes salles à Dakar. Donc ce regard commun, cette expérience commune, ce désir commun est une dimension fondamentale de l'expérience cinématographique. Donc lieu cosmopolite, lieu de brassage, lieu de sociabilité également, et là j'aimerais faire partir sur un petit chemin de traverse, mais qui rentre dans mon sujet, c'est que la salle de cinéma a souvent été un lieu de meeting politique. Parce qu'en effet, dans les villes en général, grandes ou moins grandes, il n'y a pas de grandes salles. Ce que l'on va construire dans les années 50, ce sont les stades de foot, qui vont parfois servir de lieu de meeting politique, mais ils sont contrôlés par l'administration. Alors que les cinémas étant privés peuvent être ouverts par les gérants ou leurs propriétaires à des meetings politiques. Et donc les salles sont des lieux de meeting politique et il est intéressant d'analyser pour cela les sources et de voir comment certaines salles vont être plus ouvertes. Alors je recite le RDA, Rassemblement démocratique africain, donc un parti politique fédéral militant pour l'indépendance, et d'autres, par exemple, on a des exemples à Conakry ou à Abidjan, au parti gaulliste juste après la guerre. Donc vous avez des différenciations selon le type de cinéma et la localisation. Le fait d'être un lieu de meeting politique est une donnée que l'on trouve encore après les indépendances, où les salles peuvent continuer à jouer cette fonction. Les salles sont aussi des lieux donc, de sociabilité parce qu'il y a un avant-séance, il y a une buvette, il y a un bar, lorsqu'on est dans un cinéma de standing un peu plus important, il y a toujours de la vente ambulante, d'oranges, d'arachides, de sucreries, n'importe. Donc c'est un lieu où on se retrouve avant, où on discute et qui va faciliter les dialogues. Donc cette dimension est importante, même si plus fondamentalement, le cinéma est avant tout un lieu de divertissement. Il ne faut pas l'oublier, Jean Rouch l'a rappelé à plusieurs reprises dans ses analyses, on va d'abord au cinéma pour se changer les idées, pour voir autre chose. C'est la dimension première. On se retrouve autour de films burlesques, on se retrouve autour de westerns ou d'autres films d'action, et plus récemment, et j'en parlerai, donc de films arabes ou indiens. Alors, ce qui change dans les années 50, dans ce contexte très général qui me semble important d'avoir mis en avant, c'est que les salles vont se multiplier. Je vous montre les chiffres, ils sont tirés de Sadoul, Histoire du cinéma mondial, et important comme toujours, vous le savez, de citer les sources, ne serait-ce que parce qu'on trouve des chiffres très différents d'une source à l'autre, dans la mesure où les historiens ou ceux qui comptabilisent ne sont pas forcément d'accord sur la définition de ce qu'est une salle de cinéma. Est-ce qu'un espace de plein air avec un projecteur, c'est une salle ? Souvent, les statistiques les considèrent que non, donc on peut avoir des chiffres variables. Mais disons, ce qui est important, c'est l'ordre de grandeur. Donc l'ordre de grandeur, vous le voyez pour l'Afrique dite tropicale. Alors je suis désolée, il faut mentalement que vous repoussiez la dernière colonne à la fin. On voit une augmentation nette de 1950 à 1960 pour l'Afrique dite tropicale, c'est-à-dire qui exclut l'Afrique, le Maghreb, Mashrek, et qui exclut l'Afrique du Sud. Mais vous voyez quand même que comparativement aux autres zones, on reste quand même dans des chiffres qui sont assez modestes. Donc un essor, certes, un loisir qui a conquis les villes, mais qui reste quand même limité. Là aussi, c'est une carte qui ne donne qu'un ordre de grandeur, effectué d'après les guides de l'AOF. Un loisir qui concerne essentiellement les grandes villes. Tous les chefs-lieux ont un cinéma et en ont parfois plusieurs, comme je vais le montrer, et qui va, dans les années 50, concerner de plus en plus de villes moyennes. Alors, une ville comme Dakar, et ça serait vrai aussi pour Lagos ou Accra, ou Nairobi, ou Zanzibar, à l'autre bout du continent, une ville comme Dakar est une ville qui présente beaucoup de cinémas. On a une vingtaine de cinémas au moment de l'indépendance. Vous avez là les dates et en rouge la taille des différents... quand on prépare des documents, ils bougent sans qu'on leur donne l'autorisation, donc il faut que vous mettiez la dernière mention, le quartier plus à droite. Donc, une ville comme Dakar va avoir une vingtaine de cinémas, ce qui veut dire choix possible, même si il faut partir de l'idée que la majorité des spectateurs vont au cinéma pas très loin de chez eux pour éviter d'ajouter au coût du film le coût du déplacement jusqu'au cinéma. Alors, ce qui va changer dans les années 50 et créer vraiment de nouvelles choses, c'est d'une part, il y a deux phénomènes. D'une part, le fait que des cinémas soient construits dans les périphéries, dans les cinémas de quartier. Alors, vous avez un exemple à Dakar, puisque est marqué le quartier, et vous voyez que ce qui est en gras, c'est ce qui sort du plateau, c'est-à-dire ce qui sort du centre-ville de Dakar au sens strict, et on a des salles de cinéma qui sont en dehors, du centre-ville. On peut voir là un autre exemple qui est intéressant, c'est la ville de Saint-Louis du Sénégal. Donc, vous connaissez peut-être la structure de cette ville, donc, qui est organisée, le noyau ancien, le cœur ancien, ce sont deux îles. Et donc, dans ce vieux cœur, on a des cinémas depuis les années 30. Le Vox et le Rex sont des cinémas implantés depuis très longtemps, donc vous les avez en vert sur l'île. Et il faut attendre les années 50 pour qu'apparaisse sur la terre ferme, sur le continent, un cinéma, avec un changement de nom qui est intéressant aussi. J'ai fait une analyse de ce type, ce que nous apprennent les noms de cinéma, puisque je viens de dire Vox, Rex, ce qui ne vous semble pas non familier, enfin vous semble certainement tout très familier, alors que là, on a un cinéma qui s'appelle le El Hadj. Ouais. Voici une représentation, une carte postale en fait du Vox. La carte postale date des années de 43, mais le cinéma date des années 40. Et voici donc, grâce à un étudiant, parce que je dois dire que je n'aurais pas vu cette mention, le bâtiment du El Hadj que l'on voit là à la faveur du passage du général de Gaulle en 1959 à Saint-Louis du Sénégal. Donc un changement de nom qui est en lui-même intéressant. Donc on a un double phénomène, des grandes villes aux villes moyennes et des centres-villes aux quartiers, donc la naissance d'un cinéma de quartier qui va aller de pair, bien sûr, avec un changement de la typologie des spectateurs, avec un élargissement de la possibilité d'aller au cinéma. Alors, rapidement, que se passe-t-il ou y a-t-il des changements au niveau des entrepreneurs, c'est-à-dire de ceux qui gèrent ou créent des cinémas? Il faut là différencier les colonies françaises des colonies britanniques, et en partie des colonies lusophones, mais elles ont été portugaises, elles ont été moins étudiées. Du côté des colonies françaises, et c'est le cas dans les années 50, on va rapidement, c'est-à-dire à partir de la deuxième moitié des années 30, avoir une concentration des circuits de distribution qui vont de pair avec la création de cinémas que ces circuits vont donner en gérance. Donc, à partir de la fin des années 30, on a deux grands circuits, la Comacico et la SECMA, et il y a quelques individus, notamment des Libanais à Dakar, qui vont réussir à créer leur propre circuit, mais ils sont rares. Alors que du côté des colonies britanniques, on a une diversité plus grande des acteurs, donc de ceux qui sont à l'origine des cinémas, avec, selon les lieux, en Afrique de l'Est, par exemple, j'ai cité Zanzibar avant, vous avez des Indiens qui vont jouer un rôle actif, ça vient d'être étudié par Laura Fer, qui vont créer des cinémas. Comme je le disais, il y a quelques exceptions, et j'aimerais citer là une exception tout à fait intéressante, qui est le cas de Yacouba Silla, qui est un entrepreneur africain, un entrepreneur qui est également un leader religieux parce qu'il a créé une zaouïa, il a créé une communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Il a lui-même été déporté du Mali en Côte d'Ivoire par les Français pour des raisons religieuses, puisqu'il suivait un leader, Cheikh Amala, qui a fondé un courant qui s'appelle le Amalisme. Il va être assigné à résidence en Côte d'Ivoire et lorsqu'il est libéré, il décide de rester en Côte d'Ivoire et il va créer d'abord des entreprises de transport par camion et des plantations. Et il transporte par camion les produits des plantations. Mais surtout, ce qui fait l'originalité absolument de Yacouba Silla et qui est vraiment l'exception dans ce paysage cinématographique des années 50, c'est qu'il va créer 7 cinémas. Le dernier date de 1965, on est hors période, mais c'est le même mouvement. Il va créer 7 cinémas du début des années 50 à 1965 dans le centre de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire là où il est installé. Le centre de la communauté est à Gagnoa, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Hein. Et là, on est vraiment dans la logique de ce besoin de cinéma, du cinéma comme divertissement, du cinéma comme synonyme de modernité, et donc de l'initiative prise par ce dirigeant musulman de créer des cinémas qu'il crée dans des villes qui sont habitées par des musulmans et des non-musulmans. On pourra parler plus si vous avez des questions sur ce qui le différencie. Je vous montre ici une photographie que j'ai prise, j'ai fait grâce à un congé sabbatique l'an dernier. J'ai passé un mois en Côte d'Ivoire et je suis allée faire des entretiens auprès des membres de la confrérie, puisque la confrérie existe toujours. Ils ont toujours les 7 cinémas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un patrimoine immobilier dont ils ne savent pas trop quoi faire, puisque ces cinémas ont fermé très tardivement, à la fin du XXe siècle. Il y a un mouvement de fermeture des cinémas antérieurs à partir des années 80. Donc ces cinémas ont résisté longtemps, mais la guerre civile en Côte d'Ivoire et le couvre-feu a été, si vous voulez, le coup qui a vraiment abouti à la fermeture de ces cinémas. Et voici une photographie que je trouve tout à fait intéressante, qui est prise dans la cabine de projection à Adzopé, dans une des villes où il y a un cinéma, où les membres de la confrérie ont fait fonctionner le projecteur qui date de 1963, marque italienne qui fonctionne toujours très bien, je le dis pour Ricardo. Donc, et cette juxtaposition entre une photo de Yacouba Silla, entourée de mentions en arabe avec le vocabulaire arabe avec le vocabulaire, l'alphabet latin en soninké, puisqu'ils sont d'origine soninké quand ils disent Nawari, Baba c'est le père, Nawari merci. Donc cette juxtaposition entre Yacouba Silla dans son habit de leader religieux et du cow-boy de Marlboro, je trouve ça tout à fait intéressant pour ce que ça nous dit sur la perception du cinéma et sur le rôle du cinéma dans cette société. Alors bien évidemment, là on n'est pas dans les années 50, mais ça renvoie tout à fait au contexte dans lequel Yacouba Silla a créé ses cinémas. Alors voici à Gagnoa, le premier cinéma a été créé dans la ville où est installer la congrégation, c'est assez logique, pas très loin, c'est sous l'œil, ils ont une énorme résidence dans cette ville, donc le bâtiment est préservé, le cinéma s'appelait Pax. Je ne vais pas vous montrer trop de représentations, enfin d'images de ces cinémas, mais ça vous montre la buvette, par exemple, ce que j'ai évoqué auparavant, et l'espace devant le cinéma qui était un espace où on se rencontrait, où des vendeuses venaient vendre, et puis tous les éléments avec les horaires, les sorties, première classe, deuxième classe. Et de manière intéressante, d'ailleurs, ces cinémas et de façon générale les cinémas en Afrique ont gardé la différenciation de classe à l'intérieur des cinémas, différenciation qui a été abandonnée en France, par exemple, dans les années 60. Autre exemple de ce cinéma, avec le leader de la communauté yacoubiste de Doumé. Donc c'est un cinéma qui s'appelait Le Luxe. On arrive encore à voir un tout petit peu l'écriture sur la façade. Et c'est une petite ville, c'est la plus petite des communautés. Ils sont une vingtaine de personnes, pas plus. Mais ça vous montre un peu cette idée de préservation des bâtiments, alors qu'ailleurs, les cinémas ont souvent été transformés en autre chose. Ce qui leur arrive aussi, là, d'être loués comme entrepôt. Où ont été démolis. Donc, un loisir en essor, un loisir qui a conquis les villes, les grandes, mais les villes un peu plus grandes, un peu plus petites aussi, mais un bilan qui reste quand même mitigé. Je vous juxtapose là deux citations, celle de Paulin Vieira, dont je reparlerai après, qui dit qu'un Africain va au cinéma tous les deux ans, parle de moyenne, et Jean Rouch, encore plus pessimiste, les Noirs une fois tous les 30 ou 40 ans, ou dans certains cas, ou certains pays africains, une fois tous les siècles. Voilà. Il veut dire par là qu'effectivement, en dehors des villes, des grandes villes et des villes moyennes, le cinéma ne touche pas forcément tout le monde, et une fois tous les siècles, si vous avez la chance, et je vais en parler un peu, qu'un cinéma ambulant passe par là. Et c'est un phénomène aussi que l'on voit se multiplier dans les années 50 et qui va expliquer que le cinéma va, dans les années 50, diffuser plus largement qu'auparavant des idées nouvelles, quelque chose, un ailleurs, ouvrir un espace ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'ambulant avant, avant les années 50, mais disons que l'élargissement du circuit du réseau routier, même s'il reste très limité, va permettre une circulation plus grande des cinéastes, des entrepreneurs ambulants. Et là aussi, je vais vous montrer quelques images pour concrétiser ce que pouvait représenter le cinéma dans les années 50, grâce à une rencontre que j'ai faite après la publication de Fantomas. Un homme m'a contacté, Jean-Paul Sivadier, qui a 85 ans passé maintenant, et qui, pendant 3 ans, a circulé, donc de 1957 à 1960, avec un camion, qu'il avait acheté à un autre cinéaste ambulant auparavant. Et il va circuler en faisant 7 à 8 000 kilomètres chaque fois qu'il circule une saison qui correspond à la saison sèche. L'historienne que je suis a énormément de chance parce que Jean-Paul Sivadier est quelqu'un de très ordonné. Il a pris des photos qu'il a datées, localisées. Et donc, voilà, vous êtes au Mali en avril 59 avec son camion qu'il a peint en rouge et dans lequel il avait les bancs qui le dépliaient quand il arrivait. Il avait les bâches parce que le propre du cinéma ambulant de ce type, c'est d'être payant. Donc, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui sont spectateurs et ceux qui ne le sont pas. Et donc, on surveille ceci. Il avait également dans son camion 2 générateurs pour éviter les pannes puisque l'approvisionnement électrique des villages était inexistant. Et disait-il, j'ai fait une enquête orale bien sûr auprès de lui et puis il a beaucoup de documents comptables et autres, pas besoin de faire de publicité pour le cinéma parce que l'arrivée du camion, là tout le monde l'entend, tout le monde le voit, les gamins voilà, parcourent pour annoncer. Et il mettait juste les affiches qui, comme vous le voyez dans ce cas-là, sont deux westerns qui sont montrées lors de la séance, puisque dans les années 50, on faisait ce qui avait été hérité de la crise des années 30 aux États-Unis, c'est-à-dire un double programme. On montrait deux films, et donc la séance était très longue. Elle démarrait à la nuit tombée, vers 7h30, 8h, jusqu'à minuit, sans interruption en général. Voici les deux travailleurs avec lesquels il a circulé, qui étaient chauffeurs, lavaient le linge, faisaient la cuisine, enfin toutes sortes de travaux que M. Sivadier faisait également aussi. Voici un exemple de caisse avant que ne démarre la séance. Et là aussi, il a des exemples intéressants. En montrant, il en a conservé des billets de banque qui sont recréés à partir de deux bouts de billets de banque qui n'ont rien à voir à faire l'un avec l'autre. Mais comme les gens arrivent avec le billet de banque complètement froissé dans la main, on n'a pas le temps de vraiment voir, et c'est une surprise qu'ils voient par ailleurs. J'ai vraiment sélectionné dans tous les photographies qu'il a. Autre information qu'il nous donne et qui ne fait que confirmer ce qu'on a par ailleurs, c'est-à-dire cette diversité des publics. Vous voyez, ici on est à Niono, c'est-à-dire l'office du Niger, dans une zone où les agriculteurs que l'on a délocalisés pour théoriquement produire du coton ont un niveau de vie un peu plus élevé que dans les villages autour. On voit aussi là une différence. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. On a un public très diversifié lors des séances. Et pour terminer cette évocation du cinéma ambulant, et puisque on est quand même dans un institut qui se préoccupe d'islam, Monsieur Sivadier, qui n'avait pas froid aux yeux, s'est arrêté à Touba, donc la ville religieuse des Mourides, est allé voir le Sérigne Touba, qui lui a donné un entretien et qu'il raconte, mais qui lui a dit « Non, vous ne pouvez pas installer le cinéma à Touba, vous allez dans un village à une dizaine ou quinzaine kilomètres de là. » Et donc il est allé à Daramousti, et c'est le moment du Magal, le moment du pèlerinage, et on voit les mourides venir au cinéma ou aller au cinéma comme irait tout un chacun. Donc on a vraiment dans les années 50, je dirais, l'extension d'un contexte que l'on voit dans les années 30, mais un élargissement des caractéristiques. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est de développer un peu l'idée du cinéma comme arène politique, c'est-à-dire à la fois s'affirmer comme public et affirmer ses choix en tant que spectateur. Alors, premier élément, s'affirmer comme public. Je l'ai dit, je remets en avant donc le contexte de politisation accrue, de contestation, de revendication, de droits politiques qui donnent une force aux spectateurs et qui sont postérieurs à 1946 pour l'Empire français, mais du côté britannique, les changements de loi vont se faire pratiquement au même rythme, et qui va permettre aux spectateurs de s'approprier de plus en plus la salle. Alors, j'aimerais quand même faire un tout petit détour sur la question des sources, la question de la réception des films. La question du vécu des spectateurs est une question très difficile à cerner en tant qu'historien. C'est certainement ce qui nous intéresse le plus, mais qu'on a parfois le plus de mal à préciser. Que pensent les gens quand ils voient un film ? Que se passe-t-il ? Quel dialogue intérieur ils ont ? Sont des questions auxquelles les réponses ne se trouve souvent que dans deux types de sources, les témoignages, bien sûr. J'ai cité Birago Diop, qui décrit ses séances de cinéma dans les années 30 ou les années 50. Il y aurait aussi Amadou Ampateba, qui dans Amkoulel, non mais surtout dans, plutôt dans l'autre, dans Oui, mon commandant, évoque ses séances de cinéma, puisqu'il allait au cinéma de manière assidue à Bamako notamment. Donc il y a les témoignages. Mais ces témoignages ne sont pas si nombreux que cela, en fait. On peut encore en trouver d'autres, bien sûr, parce qu'il s'agit parfois d'une page par-ci, par-là, dans un roman, dans des mémoires. Et ces témoignages, vous le comprenez aisément, évoquent l'élite, évoquent les individus qui s'expriment par écrit, qui écrivent leurs mémoires. Donc on n'a pas beaucoup de témoignages, écrits en tout cas, de, on va dire, le public en général. Et lorsqu'on fait des enquêtes orales, il y a certaines questions que la mémoire ne véhicule pas ou ne véhicule pas de manière claire. Les questions sur la censure tombent généralement à plat. Il n'y a pas de conscience exprimée, en tout cas, par rapport à la censure. On a peu, donc, de témoignages de ce type. Donc, les autres sources que l'on a, et j'en utiliserai plusieurs, ce sont les sources policières, c'est-à-dire ce sont les sources administratives de contrôle des salles. Il y avait souvent dans les salles de cinéma, à cause de tout ce que je suis en train de vous exposer, c'est-à-dire la salle de cinéma comme enjeu et le film comme enjeu, il y avait des indicateurs qui allaient assister à des séances et qui faisaient des comptes rendus. Et à la suite de leur rapport, ou parfois tout de suite sur le moment, un film pouvait être interdit ou on pouvait orienter d'une autre manière. Mais vous voyez bien que ces sources administratives, ces sources policières sont un filtre et l'historien doit se débrouiller avec ce type de sources. Et donc quand je disais s'affirmer comme spectateur, le premier élément que je voulais mettre en avant, c'est justement la position dans la salle. Parce que les salles de cinéma ne sont pas officiellement ségrégées. N'importe qui peut acheter n'importe quel billet et s'asseoir où il veut. Ça, c'est d'une certaine manière la théorie. Mais la pratique, c'est une pratique de société coloniale, avec ses hiérarchies dominant-dominées, avec sa codification. Ce que Maurice Maeker nous montre très bien dans son texte, si les cinémas sont mixtes, les Africains ne sont admis que dans les 10 premiers rangs, ils doivent suivre une file d'attente distincte, et tout cela n'a aucun caractère réglementaire. Il s'agit d'un simple conditionnement de comportement, c'est-à-dire une intériorisation, non pas des interdits, mais de la hiérarchie coloniale. Alors, bien évidemment, ceci s'applique dans les cinémas fréquentés par Européens et Africains. Si vous allez à la Médina, vous aurez peu d'Européens qui vont au cinéma à la Médina, et au centre-ville, vous aurez plus d'Européens à l'inverse. Et justement, quelque chose que l'on observe dans les années 50, que l'on observait aussi individuellement auparavant, par exemple Birago Diop ou Amadou Ampateba, qui sont tous les deux ce qu'on appelle des évolués, qui font partie des catégories dirigeantes, des classes moyennes de ce qu'on appelait les collaborants dans la colonisation, qui ont des postes de fonctionnaires. Birago Diop était vétérinaire, Amadou Ampateba a travaillé dans l'administration avant de passer à l'IFAN. Ces individus achetaient les billets les plus chers et allaient s'asseoir à côté des Européens dans les places les meilleures. Mais c'était des exceptions. Et justement, la citation « Les nègres, ils t'emmerdent » renvoie à une tension à ce niveau-là où Birago Diop s'affirme, mais peut s'affirmer parce qu'il a le statut lui permettant de le faire. Or, on voit dans les années 50, comme ce que nous montre cet extrait d'une enquête de Bingo, on voit de plus en plus des individus qui ne sont pas des individus très importants. Alors ce sont, par exemple, vous avez une femme qui travaille à l'hôpital de Fan, vous avez Conté Amadou Lamine qui travaille au port, c'est-à-dire ce sont des salariés quand même, donc salariés ça veut dire des revenus fixes et une certaine aisance éventuellement dans la société coloniale, qui disent directement « je préfère être installé au fauteuil » pour des raisons de confort et de sécurité. C'est-à-dire qu'ils achètent les billets plus élevés, les plus chers, leur permettant d'être dans les places qui auparavant étaient, comme le disait Mecker, celles qui étaient indirectement réservées aux Européens. Et la même chose, donc la deuxième citation, je m'installe toujours au fauteuil pour plus de tranquillité. Et dans cette enquête de Bingo faite à Dakar dans les années, enfin en 1960, ils expliquent que oui, ailleurs, il y a trop de chahuts, les gens commentent à haute voix et ça les empêche de suivre le film. Donc ils veulent à la fois être mieux assis et mieux voir, mieux suivre le film. Donc c'est toute une question là de la cinéphilie qui se met en place. Donc cette question de s'affirmer comme public, c'est aussi la question de la visibilité des spectateurs. Alors comment peut-on cerner la visibilité d'un public à l'intérieur d'une salle ? J'ai essayé, donc à travers les sources dont je dispose, et je vous ai montré les limites de mes sources, de montrer qu'on a à la fois des silences éloquents et des échanges verbaux tout aussi éloquents. Donc là, vous avez un exemple qui est tiré d'un ambulant, qui n'est pas daté de manière spécifique. C'est quelqu'un qui a été ambulant des années 30 jusqu'à 1974. Je ne passais jamais un combat de boxe entre un blanc et un noir où le blanc était perdant, car la salle était frappée de délire et menacée de tout casser, et ceci même dans les endroits les plus reculés. Quand le blanc était gagnant, c'était le silence. Voilà une forme d'affirmation en tant que public. Voilà une autre forme d'affirmation en tant que public. C'est le meilleur exemple que j'ai trouvé. Les archives de la censure, il n'y a pas d'archives de dossiers spécifiques cinéma. On les trouve dans les archives des affaires intérieures. C'est le meilleur exemple de censure que j'ai pu trouver, le meilleur exemple aussi de visibilité. Vous avez peut-être vu ce film, La bataille du rail, qui est un classique de l'histoire du cinéma, premier prix du premier festival de Cannes en 1946. Ce film a été diffusé à Dakar en 1946, sans que les sources, en tout cas, ne nous en disent quoi que ce soit, en 1946, et rediffusé en 1949, donc après la fondation du RDA, après le changement de constitution et des changements politiques qui se mettent en route. Voici ce qui a été dit dans une salle du Niger. Nous devons imiter les Français de Paris et ne pas craindre de verser notre sang pour notre pays et pour nos libertés. Alors, il n'y avait pas un indicateur dans la salle, mais il y avait le général de division commandant les forces armées de l'Afrique occidentale. Il a tout de suite fait un rapport. Le film a immédiatement été interdit. On n'a pas pu arrêter quelqu'un, puisque c'est le bénéfice de la salle obscure. Mais vous voyez là un exemple de censure tout à fait intéressant, parce que les Français qui étaient dans l'idéologie des Français résistants, de la nation résistante, etc., n'avaient pas du tout envisagé dans leur commission de censure que ceci pouvait être interprété autrement par un public de colonisés, alors qu'on le voit de manière assez claire. Alors, s'affirmer comme spectateur, c'est aussi affirmer ses choix. Mais vous verrez qu'affirmer ses choix, c'est quelque chose qui est quand même contraint par le contexte colonial. Affirmer ses choix, on le voit par exemple dans cet autre extrait de l'enquête de Bingo, lorsque un étudiant dit qu'il va voir le film dans son cinéma de quartier, mais s'il l'a raté ou s'il ne passe pas, il va se déplacer. Donc il y a une démarche active qui suppose aussi de connaître le programme, de faire des choix et donc d'affirmer ses choix dans un contexte où le public est de plus en plus exigeant avec la naissance d'une culture cinéphile. On a dans les années 50, ça n'a pas encore été beaucoup étudié, la naissance de ciné-clubs par exemple, et notamment à Dakar, naissance à Dakar, à Abidjan aussi, des ciné-clubs, parfois initiés d'ailleurs par des Européens, mais qui sont des lieux de discussion sur les films. Il faut toutefois bien distinguer, et j'y reviendrai sous un autre angle après, l'affirmation des choix par un public élitiste, on va dire les scolarisés, pour faire vite, les scolarisés ou les salariés, souvent les mêmes, et un public populaire. Donc, affirmer ces choix, c'est aussi se remettre dans le contexte global de la diffusion des images. Le cinéma a été, dans le contexte colonial, un élément subversif en soi, puisqu'il échappait aux autorités coloniales qui, à la fin du 19e, début 20e siècle, contrôlaient l'image qu'ils souhaitaient diffuser des Européens dans les colonies. Une image qui se devait être civilisateur, moraux, etc. Et par exemple, on va voir à cette époque, ou dans cette même logique, le fait qu'on expulse les Européens qui ne correspondent pas à cette image. Hein. Les ivrognes, on n'aime pas trop les prostituées européennes dans les colonies. Enfin, on essaye autant qu'on peut de contrôler cette image. Bien évidemment, la guerre de 14-18 avec la circulation des combattants va déjà bousculer ceci. Mais de manière plus fondamentale, le cinéma est subversif en soi, puisque le cinéma montre des Européens dans toutes sortes de situations, notamment de violence, de brigandage, d'immoralité, enfin, vous pouvez imaginer. Alors la censure va essayer de contrôler ces images, mais si vous enlevez des écrans tout ce qui est un peu violent, tout ce qui est un peu brigandage, policier, il ne vous reste plus rien. Donc la censure va devoir, si vous voulez, jouer de manière fine, puisque par ailleurs, les autorités coloniales sont tout à fait conscientes que le cinéma, c'est une soupape de sécurité. Ça permet surtout aux jeunes, qui sont quand même ceux qui vont le plus au cinéma, jeunes entre 15 et 25 ans, hein, par là, un peu plus pour les hommes, c'est une soupape de sécurité, ça permet de se changer les idées, ça explique aussi parfois les scènes de violence dans les cinémas, puisqu'on va aller jusqu'à attacher les bancs au sol pour qu'on ne puisse pas les saisir pour se bagarrer avec, où on va avoir des bancs en béton à la fin des années 50. Donc si vous voulez, c'est un équilibre qui est assez difficile, et l'on voit bien, ou on en a bien vu par l'exemple de la bataille du rail, que la censure a priori ne suffit pas, parce que les censeurs connaissent très mal les réactions du public et les anticipent très mal. On va essayer de les anticiper un peu mieux en modifiant non pas la loi dont je montre ici, mais en modifiant la composition des comités de censure. Dans les années 50, on va intégrer dans les comités de censure des représentants des religions, musulmans ou chrétiens. On va intégrer les affaires sociales. C'est un nouveau domaine, hein, des représentants des affaires sociales. On va intégrer des parents d'élèves, par exemple. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir des comités de censure, de contrôle cinématographique plus large. Ce qui va changer dans les années 50, ce n'est donc pas la loi. Et là, pour les colonies françaises, c'est facile, parce qu'à cause de la centralisation du système colonial français, on a une seule loi pour toutes les colonies. Pour les colonies britanniques, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on a une loi par colonie. Mais disons, on a une chronologie qui est un peu anticipée. Le Ghana et la Gold Coast est la première à avoir un comité de contrôle et une action par rapport au cinéma, une action qui se veut éducative, pas de censure, et ensuite les autres colonies, donc à partir des années 20, vont prendre image sur la Gold Coast. Pour les colonies françaises, c'est facile, puisque c'est la même loi, 1934, qui est une loi d'ailleurs, comme vous le voyez, pas seulement de contrôle cinématographique, mais aussi des disques, et c'est la même loi qui va rester en place jusqu'aux indépendances. Donc ce qui va changer, ce n'est pas la loi, mais la pratique. Et ce que j'aimerais montrer là, c'est de voir comment, par la pression des spectateurs africains, les autorités coloniales ont dû changer leur pratique. Avec un élément de fond qui découle de ce que j'ai dit auparavant, mais que je préfère quand même expliciter, à partir du moment où il n'y a pas de ségrégation dans les cinémas, cela veut dire que tout le monde peut voir tous les films, potentiellement. Il n'y a pas des films pour Africains, des films pour Européens, comme au Congo belge, par exemple. Alors après, il pourra y avoir des programmations différentes dans les salles de quartier, dans les salles de centre-ville, mais comme on l'a vu, on peut se déplacer. Donc, sous la pression sur les autorités, on va voir des mesures prises qui montrent bien comment le cinéma, la salle et les films deviennent des enjeux dans les années 50. Et je montre quelques exemples. Travailler sur la censure est souvent difficile parce que dans la majorité des cas, on a des PV, des commissions de contrôle qui ne nous disent pas le pourquoi du comment. On nous dit juste, on va couper telle ou telle phrase ou on va interdire tel film, mais sans donner vraiment de précision. Donc là, vous avez des éléments de commission de censure, celle de Dakar, qui montre bien comment la pression des spectateurs, c'est-à-dire la réaction des spectateurs dans la salle, va pousser les autorités à enlever des écrans des images qu'ils n'auraient pas enlevées auparavant. Et donc, c'est ce qu'écrit le gouverneur par intérim à Bamako. Il arrive assez fréquemment dans les salles de spectacle du Soudan que des réflexions malheureuses dans les films suscitent des protestations et des mouvements divers parmi les spectateurs. Alors, ce qu'il appelle réflexions malheureuses, c'est des réflexions racistes, alors, soit paternalistes mais très appuyées, soit le plus souvent racistes, qui auparavant n'étaient pas considérées par les autorités comme étant gênantes en soi. Je vous rappelle que le cinéma occidental véhicule des images à cette époque, et que ce soit le cinéma européen ou le cinéma hollywoodien, véhicule des images soit paternalistes, soit racistes, condescendantes des populations africaines ou noires. Donc cela ne veut pas dire que les gens ne réagissaient pas auparavant, dans les années 30 ou dans les années 40, on n'en a pas en tout cas de traces très visibles. À partir des années 50, on voit vraiment que des remarques racistes font bondir les gens dans la salle. Et donc les autorités essayent d'anticiper autant qu'elles le peuvent. Et donc vous avez là des exemples où on va demander de couper des phrases. Je n'ai pas besoin, je pense, de les relire, mais on va, oui, elles sont suffisamment claires en elles-mêmes pour montrer comment, à cause des réactions de plus en plus vives des spectateurs dans la salle, les autorités vont être beaucoup plus attentives à ceci. On aurait aussi des exemples que je n'ai pas pris ici par rapport à l'islam, où on va faire attention de séances d'ivrognerie, de scènes d'ivrognerie dans certains films et les couper. Alors, je vois que j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais essayer d'accélérer. Je parlais d'affirmer ses choix. Alors, pour pouvoir affirmer son choix, il faudrait que le choix soit libre. Or, bien évidemment, le choix est fait de manière antérieure à l'arrivée dans les colonies. Alors, c'est vrai de manière générale, en France comme ailleurs, nous voyons sur les écrans ce qui a été distribué. Et nous savons qu'un certain nombre de films ne sont pas distribués. Mais disons qu'on a une gamme assez, assez large. Là, c'est deux chercheurs qui nous montrent de manière intéressante, Georges Balandier au Congo dans les années 50 et Pierre Hafner pour le Soudan, le Mali à l'époque, dans les années 60-70, parce que la réalité va en gros rester la même, que finalement, les spectateurs, dans bien des cas, voient ce qu'on leur montre. Donc, il faut se mettre dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là, les westerns sont le genre qui est souvent mis en avant. Je vais aller un peu plus vite, mais l'on peut parler vraiment de la génération des années 50 comme la génération du western, en le genrant, puisqu'il s'agit d'une génération masculine du western. Bien sûr, certaines filles vont voir des westerns, mais on a là l'excellent roman de Tierno Manemembo où il parle de cette expérience dans les années 50 autour du cinéma. Vous avez certainement vu le film Bamako de Abderrahmane Sissako où il plaque au milieu de Bamako un petit western fait à Tombouctou et qui est vraiment l'espèce d'essence de ce genre. Alors justement, le western, c'est un genre très populaire, mais un genre ambigu pour les élites. Et je vous mets ici la citation de Wazin Koulibaly, donc vice-président du conseil du gouvernement de Haute-Volta, mais on a des citations du même genre par d'autres assemblées territoriales dans la fin des années 50, où l'on voit comment les premiers élus africains vont en fait avoir la même attitude que les autorités coloniales vis-à-vis du western, avec des limites. Donc, autant quelques westerns sont des scènes de pugilat et de fou rire, autant, et c'est la majorité, sont des victoires du gangstérisme, du brigandage, des leçons de viol, d'assassinat et d'immoralité. Voilà ce qu'on montre à un public qui croit encore ce qu'il voit. Donc là, on a vraiment l'attitude d'une élite par rapport à un public populaire que l'on veut contrôler. Donc vous avez une autre dimension qui est intéressante. Quel est le but d'un tel film dans un pays comme le nôtre, sinon d'intoxiquer les consciences, de perturber la moralité? Et donc là, on a vraiment une citation tout à fait intéressante d'un de ces premiers élus africains qui pense aux nations en devenir et qui pense à la jeunesse tel qu'il aimerait la former dans ce pays qui va être bientôt indépendant. Les autorités ne sont pas forcément très éloignées de ce type d'affirmation et on va avoir, et cela ne vous étonnera peut-être pas, une coalition entre les élites africaines sur certains points et les autorités. On voit en effet donc des scènes de gangsters, de western, qui exercent sur l'esprit de la jeunesse une influence subversive. Mais un administrateur a noté au crayon dans la marge qu'y a-t-il de mal dans les westerns. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs prises de position possibles et au final, rares sont les westerns qui sont entièrement interdits. Voici un exemple, Bronco Apache, 1954. A été interdit parce qu'il met en scène, vous le voyez, ce qu'ils appellent des aspects outrés d'antagonisme racial. Mais ce qui est intéressant là, c'est que pour une fois, on sait qui pense quoi, puisque la majorité de la commission n'était pas pour l'interdiction, mais les affaires politiques l'ont proposé et en fait imposé. Et comme l'a bien souligné l'historien américain Charles Ambler, si vous enlevez des écrans tous les westerns, les films d'action, les policiers, les films qui plaisent aux gens, ben les gens n'iront pas au cinéma si vous leur montrez des films sur l'épargne postale. Ils voteront avec leurs pieds. Donc là aussi, une marge de manœuvre un peu complexe. Autre type de film que choisissent les spectateurs africains et que ne vont pas forcément voir d'autres, c'est la question des films arabes, qui est une question vraiment spécifique aux colonies africaines, aux colonies, pardon, françaises. Dans les colonies britanniques, les films arabes ne sont pas très diffusés pour des raisons que je n'ai pas encore réussi à expliciter. Les films indiens, eux, vont être plus importants. Les films arabes et indiens ayant en point commun qu'ils ont des chants et des danses très souvent. Alors, quand on dit films arabes, il faut bien dire que ce sont les films égyptiens. 90% de films égyptiens. Dans les années 50, vous avez quelques films libanais, ça commence, mais c'est vraiment les films égyptiens. Alors, les films arabes posent vraiment un problème aux autorités coloniales, image anodine, dis-je, parce qu'effectivement, les films égyptiens sont déjà extrêmement censurés sur place, et ce sont des films de haute tenue morale qui stigmatisent des vices tels que le libertinage ou l'ivrognerie. Et premier élément, pour la population colonisée, pour les colonisés, ce sont les films occidentaux qui sont les films pervertissants et pas les films arabes. Donc, que se passe-t-il dans les années 50 pour qu'on essaye dans les colonies françaises d'interdire les films arabes? Ben, c'est tout le contexte des années 50, c'est tout le contexte des changements politiques en Égypte après le renversement du roi Farouk, la venue au pouvoir de Nasser et le panarabisme comme idéologie alternative dans la logique des indépendances. Et donc, à ce moment-là, il y a aussi certains changements dans le cinéma égyptien qui peut se faire parfois plus politique. Et donc, on va essayer d'interdire les films arabes parce qu'ils sont des hymnes à la gloire de la plus grande Égypte. Ils sont des hymnes aux leaders du monde arabe. Ils ne font, comme le disent alors les sources, il y a tout un gros dossier hein, sur cette politique des films arabes. Ils ne font que flétrir le colonialisme et montrer par exemple l'intérêt pour les musulmans à se regrouper afin de pouvoir constituer dans l'avenir une confédération des États arabes. Donc c'est à partir de cela qu'ils deviennent dangereux et qu'ils deviennent pour les spectateurs également, toujours par écran interposé, une possibilité de s'exprimer face à l'écran. On a des exemples, il y a une thèse de Djibril Seck qui a été faite sur le cinéma à Dakar, qui est tout à fait intéressante, où il dit, grâce aux rapports policiers que l'on a, que très souvent dans la salle, lorsqu'il y a un film arabe, on va crier « Allahu Akbar », c'est-à-dire qu'on va manifester autre chose que de la cinéphilie dans la salle. Alors, on va essayer, au prétexte d'une loi des quotas qui a été votée en France en 1953, pour protéger les films français, on va utiliser cette loi dans les colonies pour essayer de contrer la diffusion des films égyptiens. Et en particulier, on va demander aux distributeurs, qui peuvent être la Comacico ou la SECMA, qui n'ont pas d'état d'âme, hein, eux, ce qu'ils cherchent, c'est la rentabilité. Donc, un film égyptien, ils le diffusent comme un autre. On va leur demander de traduire les chants. Or, les chants étaient en arabe et les gens chantaient dans la salle. On a des exemples. Il y a un témoignage d'une femme qui s'appelle Nafissatou Diallo, qui a écrit un texte qui s'appelle « De Tylène au plateau », qui est très intéressant, où elle parle de films égyptiens que les gens ont vus au moins une douzaine de fois. Tout le monde connaît par cœur les paroles, ceci étant bien sûr favorisé par le fait que l'école coranique vous apprend à prononcer l'arabe, même si vous ne comprenez pas tout. Et donc, faire traduire les chants, vous voyez à quel point c'est totalement subversif. Enfin, subversif dans un sens, indirect. Cette politique va échouer, comme va échouer la question du canal de Suez. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est plutôt un champ de cygne pour la France, qui n'a pas les moyens d'imposer ce type de politique. Et très vite, j'ai écrit un article, donc les films arabes, une menace pour l'Empire. Très vite, dès 56-57, on bat en retraite et on abandonne toute politique de ce genre. Alors, mon image fonctionne à moitié. La question que je posais là pour terminer, c'est quelle image, quel cinéma pour quelle Afrique former la nation, forger la jeunesse. Effectivement, de plus en plus, des élus, mais également des jeunes, des centres culturels, des maisons de jeunesse, des instituteurs, se mêlent à cela des éléments internationaux comme l'UNESCO, qui va s'intéresser à la valeur pédagogique du cinéma en Afrique en général, vont se poser la question de la représentation des Africains au cinéma et de la nécessité de créer d'autres images. Hein. Donc, quelles images, quel cinéma pour quelle Afrique. Alors, je cite à nouveau Paulin Vieira, que j'avais cité avant, qui va être le premier Africain d'Afrique sud-saharienne. Il y avait un Marocain avant, a intégré l'école du cinéma, l'IDEC, en 1952. Vieira a une trajectoire particulière, puisque en 1935, il est envoyé par sa famille, alors qu'il a 10 ans, pour aller faire sa scolarité en France. Donc, il est scolarisé en France, et il affirme là, de manière nette pour lui, la préférence marquée pour la production nationale est un phénomène universel. C'est-à-dire qu'il constate en Europe qui produit et pour quel public, et il l'applique à l'Afrique. Alors que, et là je vous ai mis une citation qui va à l'opposé, bien sûr, de cette affirmation, vous avez encore à la même époque, donc là c'est lors de la conférence de Malte de 1953, qui est une conférence des catholiques qui s'intéresse au cinéma dans sa valeur éducative, vous avez cette citation du cardinal de Lorenzo Marquez, l'Afrique, surtout l'Afrique de population bantoue, est un continent, est encore un continent à la civilisation primitive. Ses habitants noirs sont de grands enfants, donc ça c'est la thématique des grands enfants qui est abandonnée ailleurs, mais que l'on voit encore très active là, ayant la force physique de l'adulte et les passions de l'homme, mais leur mentalité est enfantine en vérité, etc., etc. Donc vous voyez les contrastes d'opinions possibles à l'époque. Alors Paulin Vieira va être avec d'autres à l'origine de ce qu'on considère souvent comme le premier film africain fait à Paris, avec un groupe de cinéastes qui viennent, ou d'étudiants qui viennent de pays variés, et il va être une voix très active. Il participe à plusieurs colloques en 58, 59. Il va être une de ces voix qui s'exprime pour demander... ou pas demander, pour simplement affirmer la nécessité de la production de films par les Africains eux-mêmes, avec l'aide technique d'Européens, parce qu'on en a besoin à la fin des années 50, mais comme il le dit lors d'une conférence à Bruxelles en 1958, chaque fois que les Africains ont eu à se prononcer sur leur destinée, ils l'ont toujours fait d'une manière fort différente de celle qu'avaient imaginé les Européens. Donc, laisser les Africains créer leurs propres images, mais surtout dans le contexte qui est celui de la fin des années 50, donnez-leur les moyens techniques, les moyens financiers d'accéder à la production de leurs propres images. Or, on voit bien, même s'il y a quelques petits changements, que les autorités coloniales ne sont pas pressées, ni britanniques ni françaises, je pourrais donner des exemples, ne sont pas pressées de former des Africains à leur autonomie cinématographique. Ils peuvent être collaborateurs, mais pas plus. Autre citation de Vieira, qui est vraiment là aussi intéressante, on a aussi dit qu'il fallait adapter le cinéma à la compréhension des Africains. Ça, c'est surtout les missionnaires belges qui créaient des films spécifiquement pour les Africains. C'est aussi un peu la politique des Britanniques qui ont des centres de création cinématographique dans chaque colonie. Je trouve cette sollicitude à notre égard très touchante, mais je rappellerai simplement que lorsque le cinéma a débuté en Europe, personne ne s'est préoccupé de savoir si les gens comprenaient la technique. Bref, un apprentissage comme partout. Alors, il n'est pas le seul. Ce Ghanéen, David Akwa, qui est présent à Bruxelles aussi, dénonce l'idée qu'être illettré, ne pas être scolarisé, ne pas maîtriser l'anglais dans ce cas, voudrait dire avoir la mentalité d'un enfant. Il faut arrêter de raisonner comme cela, comme raisonnait le cardinal que j'ai cité avant. Donc, cette envie de cinéma produit par soi-même, de représentation qui s'éloignerait des représentations qui sont celles que l'on voit constamment à l'écran, notamment par le cinéma hollywoodien, où la population noire peut être plus représentée que dans le cinéma occidental de la même époque, où il n'est absolument pas majeur. On le voit bien dans cette enquête de Bingo, c'est une enquête tout à fait intéressante dont j'ai déjà donné des extraits, et où parmi les questions, il demande « Est-ce que vous voulez du cinéma africain ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ?» Et donc vous avez là des exemples variés. Faire connaître notre monde noir sous son vrai jour, le cinéma qui présenterait non des noirs cirant et servant éternellement, mais plein de dignité des hommes et non des outils des blancs. Donc revalorisation de l'homme africain, on est dans tout ce contexte de la fin des années 50. Et pour terminer sur cette question des images, avant de passer rapidement à la conclusion, c'est le mot de la fin que j'aime beaucoup. C'est à nouveau Viera qui, à la deuxième rencontre des écrivains et des artistes noirs à Rome, et ça a été publié dans la revue Présence africaine où il publie la plupart de ses articles. Voilà, j'aime bien qu'on nous laisse produire nos propres navets. Donc, ça me paraît être un mot de la fin intéressant. Alors maintenant, je vais juste ouvrir sur une fin un peu plus ancienne, un peu plus qui approche du présent. Que reste-t-il de cette période? Que reste-t-il des années 50? Alors d'abord, il reste la lancée, c'est-à-dire jusque dans les années 70, le cinéma a continué à jouer un rôle. Je me suis arrêtée au moment des indépendances, parce que c'est plus facile de faire une synthèse globale pour cette période-là. Après, il faut vraiment faire, pays par pays, une histoire du cinéma. Ça a été fait parfois, mais pas toujours. Mais en tout cas, 1960, c'est pas une rupture, puisque le cinéma continue sur sa lancée de la même manière jusqu'aux années 70. À partir de ce moment-là, on va voir des phénomènes que vous connaissez certainement, la concurrence de la télévision, hein, qui se diffuse plus ou moins précocement selon les pays, puis la concurrence des bandes vidéo, des vidéoclubs qui sont beaucoup moins coûteux. On a des séances à quelques centaines de francs CFA dans ces vidéoclubs, et puis de plus en plus la concurrence, mais ça c'est quand même plus récent, d'Internet. Mais il faut rajouter à cet élément de concurrence des images l'insécurité urbaine. On circule de moins en moins à partir des années 80-90 dans les villes la nuit. L'allongement des villes, hein, les villes deviennent énormes, donc pour aller au cinéma, il faut faire souvent des distances longues. Et puis, je l'ai évoqué pour la Côte d'Ivoire, le couvre-feu, ça a été le cas au Ghana aussi, c'est ce qui a mis à bas les derniers cinémas qui résistaient encore. Alors, cela ne veut pas dire, loin de là, que les films ont disparu du quotidien en Afrique. Au contraire, on n'a jamais vu autant de films. Mais ce qui a disparu, c'est cette vision collective dans une salle, avec d'autres avec lesquels on partage, avec lesquels on peut discuter, devant lesquels on peut commenter, et donc qui suscite au niveau politique, au sens large, des réactions et qui a fait que le cinéma est, dans les années 50, un réel enjeu politique. Après les indépendances, divers États vont se saisir de cette dimension pédagogique et politique, soit pour ouvrir à la création, mais à vrai dire pas si souvent, soit plutôt pour utiliser le cinéma pour imposer leur propre vision de la société. Alors, que reste-t-il de cette effervescence, à part les souvenirs, les mémoires? Il reste des objets. Voici deux objets totalement différents, puisque un en haut, donc c'est à Bouaké, hein, où j'ai fait des enquêtes également donc l'an dernier. Vous avez en haut un banc du Rex qui est au bord de la route et où des vieux copains qui allaient ensemble au cinéma dans les années 50-60 viennent s'asseoir pour papoter le soir. Et puis en bas, banc de cinéma aussi, mais privatisé, où le frère du maire a récupéré un banc lorsque le maire de Bouaké a fait démolir, pour des raisons foncières compliquées, le cinéma qui fonctionnait très bien. Ce qui reste aussi, ce sont les bâtiments, certains bâtiments, et je vous montre celui-ci qui est le plus significatif parce qu'il a gardé son nom, hein, El Mansour, à Abidjan, à Trècheville, qui n'est plus un cinéma depuis longtemps, qui est un entrepôt, qui est divisé à l'intérieur, mais qui nous renvoie bien, hein, c'est un cinéma des années 50, avec les claustras, avec l'architecture assez classique, qui nous renvoie bien à ce qu'a été ce moment très fort des années 50 et ce que le cinéma a pu signifier pour les spectateurs qui allaient.
Merci beaucoup à vous d'être venu. Merci Odile Gerg de votre intervention.
Merci de m'avoir invité.
Je vous rappelle que la prochaine conférence publique aura lieu non pas le premier mardi du mois de mai, ni le deuxième, puisque c'est le premier le 8 mai, mais le mardi 15 mai. Et nous écouterons Marie Mirand-Huillon qui nous parlera d'islam en Afrique de l'Ouest. Merci encore.